الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد. Nous avons parlé durant les deux dernières semaines à propos des rites du pèlerinage et de ce que le pèlerin doit pratiquer. Nous avons dit que les pèlerins entrent à la Mecque et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils pratiquent le tawaf d'arrivée autour de la Kaaba. Et ensuite, ils font le sa'y, les allers-retours entre As-Safa, le mont Safa et le mont Marwa. Ensuite, lorsqu'arrive le huitième jour du mois lunaire de Dhul-Hijja, c'est-à-dire le jour du Tarwiya, les pèlerins se rendent à Mina et ils y prient la prière de Dhuhr et de l'Asr. Ils raccourcissent ces prières sans les rassembler. Ensuite, ils dorment la nuit qui arrive, c'est-à-dire la nuit qui précède le neuvième jour de Dhul-Hijja, la nuit qui précède le jour de Arafah, ils dorment à Mina et ils y prient la prière du Maghreb, trois unités de prière, comme d'habitude, et ils prient la prière de l'Isha, deux unités de prière, ils l'écourtent. Et ils prient ensuite la prière de l'Fajr. Et ensuite, ils se rendent à Arafah, ils se rendent à la station Arafah. Et ils y prient la prière de Dhuhr et de l'Asr en les rassemblant et en les écourtant. Ensuite, après le coucher du soleil, ils quittent la station Arafah pour se rendre à la station Muzdalifah. Et ils y prient la prière de l'Maghrib et de l'Isha en les rassemblant et en les écourtant. C'est-à-dire en priant la prière de l'Maghrib, trois unités de prière, et la prière de l'Isha, deux. Et ils passent la nuit à Muzdalifah. Et ils y prient la prière de l'aube dès le début de son heure. Et ensuite, juste avant le lever du soleil, juste avant que le soleil ne se lève complètement, ils se rendent à Mina et ils lapident la plus grande des stèles. Ils la lapident avec sept petites pierres, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière. Et ensuite, après le jet de pierre, ils sacrifient une bête. Et la bête est obligatoire en ce qui concerne le pèlerin qui est entré, comme nous l'avons expliqué il y a deux semaines. Nous avons dit qu'il y a trois façons d'entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage. Il y a celui qui entre tout d'abord en état de sacralisation pour pratiquer la Umrah, et ensuite il rentrera une seconde fois en état de sacralisation le huitième jour de Dhul-Hijjah pour pratiquer le pèlerinage. Il y a celui qui entre directement en ayant l'intention de pratiquer et à la fois la Umrah et à la fois le pèlerinage. Et il y a celui qui entre avec l'intention de ne pratiquer que le pèlerinage. La bête à sacrifier est obligatoire en ce qui concerne celui qui est entré pour pratiquer tout d'abord la Umrah et ensuite le Hajj, le Mutamattir. Et c'est également obligatoire pour celui qui a associé entre les deux, c'est-à-dire qui a eu dans son intention d'entrer en état de sacralisation pour pratiquer à la fois le pèlerinage et à la fois la Umrah. Et le moment du sacrifice de la bête commence au lever du soleil du dixième jour, le jour du sacrifice, et se termine au troisième jour des jours du Tashriq, c'est-à-dire le quatrième jour après. Le premier jour, c'est le jour du sacrifice. Le lendemain, c'est le premier jour du jour du Tashriq. Ensuite, le deuxième et ensuite, le troisième. Ensuite, le pèlerin se rend chez le coiffeur ou chez quelqu'un qui va lui couper ou lui raser les cheveux. Et la sunna, c'est que le coiffeur commence par la partie droite de sa tête. Et se raser les cheveux à ce moment-là est préférable que de se contenter de les tailler. Car il est rapporté dans un hadith authentifié par le Bukhari et Muslim que le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah pardonne à ceux qui se rasent les cheveux. Ils ont dit, ô messager d'Allah, et ceux qui se contentent de se tailler les cheveux. Évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces paroles le jour du pèlerinage. Ça concerne les pèlerins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah pardonne à ceux qui se rasent les cheveux. Les compagnons ont dit, et ceux qui se contentent de les tailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété qu'Allah pardonne à ceux qui se rasent les cheveux. Ils ont réitéré leur demande au messager d'Allah, et ceux qui se contentent de les tailler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété sa réponse, qu'Allah pardonne à ceux qui se rasent les cheveux. Et enfin, Ils répétèrent, ô messager d'Allah, et ceux qui se contentent de tailler leurs cheveux. Et là, il dit, et ceux également qui se contentent de se tailler les cheveux. Il est également recommandé de se couper les ongles à ce moment-là et de se tailler ou de se raser les moustaches. Quant aux femmes, elles n'ont pas à se raser les cheveux et il leur est interdit également de se tailler les cheveux de manière trop courte. Mais il fait partie de la sunna concernant les femmes de se couper un tout petit peu de cheveux de la taille d'une phalange. En faisant cela, le pèlerin a le droit de faire tout ce qui lui était interdit pendant son état de sacralisation, sauf d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Il lui était interdit de s'habiller avec ses habits habituels, il lui était interdit de se parfumer, etc. Tout cela lui est autorisé lorsqu'il aura jeté les 7 pierres au niveau de la grande stèle et qu'il aura coupé, qu'il aura soit taillé, soit rasé ses cheveux et sacrifié sa bête. Toutes ces choses-là, tous ces interdits lui sont une nouvelle fois autorisés, sauf le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Il doit attendre de pratiquer le tawaf l'ifada, autour de la Kaaba pour pouvoir, une nouvelle fois, ne plus avoir cet interdit, c'est-à-dire pouvoir avoir des rapports intimes avec son épouse. Et donc il se rend à la Mecque pour faire le tawaf l'ifada. Il faut savoir que ce tawaf est un des piliers des actes du hajj, un des piliers des actes du pèlerinage. Sans cet acte, le pèlerinage n'est pas valable. Ensuite, après ce tawaf, il est également légiféré de faire les allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa. Mais cela ne concerne finalement que celui qui est entré en état de sacralisation tout d'abord pour la Umra et ensuite il se met une deuxième fois en état de sacralisation pour le Hajj. Parce que celui qui est entré en état de sacralisation et qui a déjà fait le tawaf d'arrivée, mais il est entré en état de sacralisation pour pratiquer le Hajj et la Umra en même temps ou uniquement le Hajj, celui-là, au moment de son tawaf d'arrivée, s'il a déjà fait les allers-retours entre les monts Safa et le Marwa, il ne doit pas refaire les allers-retours. Une seule pratique de ce rite entre Safa et le Marwa lui est suffisante, soit juste après le premier tawaf, soit juste après le tawaf al-ifada. Quant à celui qui est entré en état de sacralisation pour la Umra et ensuite pour le pèlerinage, celui-là, il doit faire deux fois cet acte. Une première fois pour sa Umra et une seconde fois pour son pèlerinage. Ensuite, sache, mon frère, ma sœur qui te rend cette année au pèlerinage, que l'ordre entre les actes et les rites qui sont à pratiquer le jour du sacrifice n'est pas obligatoire. Nous ne devons pas obligatoirement et impérativement respecter l'ordre que le prophète sallam a respecté. Le prophète sallam a d'abord lancé les pierres, puis ensuite il a sacrifié la bête, puis ensuite il s'est rasé les cheveux, et ensuite il a pratiqué le tawaf autour de la maison sacrée. Cet ordre n'est pas obligatoire parce que les compagnons ont eu l'habitude de faire un autre ordre entre ces rites, et le prophète sallam leur disait « nul grief, il n'y a pas de mal ». Le compagnon Abdullah ibn Umar nous rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était debout au niveau de la plus grande des stèles, il a entendu quelqu'un venir le voir et lui dire « Ô messager d'Allah, je me suis rasé les cheveux alors que je n'ai pas encore lancé les pierres. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Lance et il n'y a aucun mal. » Ensuite, un autre homme est venu le voir et il a dit « J'ai sacrifié la bête et je n'ai pas lancé les pierres. » Il lui a dit « Sacrifie » ou lui a dit plutôt « Jette tes pierres et il n'y a aucun mal. » Ensuite, un homme est venu le voir en lui disant « J'ai pratiqué le tawaf avant de lancer les pierres. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu peux à présent lancer tes pierres et il n'y a aucun mal. » Et ce hadith est authentifié par le Bukhari et Muslim. Ensuite, après ces rites, le pèlerin revient à Mina pour y passer les nuits des trois jours suivants, c'est-à-dire les jours du Tashriq. Et pendant les trois jours suivants, les jours du Tashriq, il devra lancer 7 pierres pour les 3 stèles, alors que le premier jour, le jour du sacrifice, il n'a lancé les 7 pierres que pour la plus grande des stèles. Et ensuite, donc, nous disons, pendant les jours du Tashriq, les pèlerins vont jeter leurs pierres au niveau des 3 stèles. Et ce moment commence au moment où le soleil arrive au zénith, c'est-à-dire au moment de l'entrée de la prière de Dhuhr, alors que le jour du sacrifice, la lapidation de la grande stèle se fait dès le lever du soleil. Donc à partir du premier jour du Tashriq, les trois stèles sont lapidées. Le pèlerin se rend d'abord à la première stèle, il jette les sept pierres et il proclame la grandeur d'Allah au moment de lancer chaque pierre. Et il faut qu'il y ait un certain espace entre lui et le bord. Le fait de lâcher la pierre, tout simplement, n'est pas considéré comme un lancer. Et le hadith nous parle de lancer. Donc la personne doit avoir un certain recul pour pouvoir lancer. Quant à ceux qui reviennent de leur pèlerinage en se vantant, en disant « moi j'ai pu être juste à côté, j'ai juste laissé tomber mes pierres », celui-là il n'a pas accompli son rite, car le fait d'accomplir son rite, c'est qu'il faut lancer les pierres. Donc après la première stèle, le pèlerin avance vers la droite et il reste debout un long moment et il fait des invocations en levant ses bras comme le professeur Hassim l'a fait. Ensuite il se rend à la deuxième stèle qu'il va également lapider de sept pierres en proclamant la grandeur d'Allah au moment de lancer chaque pierre. Ensuite, il avance du côté gauche et également à ce moment-là, il reste un certain temps en invoquant Allah Azza wa Jal et en levant ses bras comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et ensuite, il se rend vers la plus grande et la dernière des stèles et il la lapide de cette pierre en proclamant la grandeur d'Allah Azza wa Jal également au moment de lancer chaque pierre. Et après cette dernière lapidation, il ne reste pas debout comme il l'a fait après les deux premières stèles. Et il faut aussi savoir que ces actes, le fait de rester debout et d'invoquer Allah Azza wa Jalla un certain temps, c'est une sunna. Celui qui peut le faire, tant mieux. Mais s'il y a trop de pèlerins qui poussent, il nous est interdit d'être la cause de nuisance pour quelqu'un d'autre et en particulier pour les pèlerins. Donc l'individu n'a pas à se forcer à rester debout et à pousser les gens pour rester debout pour pratiquer une simple sunna. S'il n'a pas possibilité de rester, il continue son chemin pour lapider les autres stèles. Il est également permis pour le pèlerin de se contenter de lancer les deux premiers jours et de repartir, de quitter la station Mina dès la fin du deuxième jour de Tashriq. Normalement, on lapide les stèles pendant 3 jours, mais il est permis de quitter Mina dès le deuxième jour. Mais à condition que la personne, le pèlerin qui veut quitter Mina, ait lapidé le deuxième jour les 3 stèles et qu'il ait quitté Mina avant le coucher du soleil. Quant à celui qui est resté à Mina au moment du coucher du soleil, il est encore à Mina, celui-là, il devra rester pour lapider les 3 stèles le lendemain et le dernier jour. Quant à ceux... S'il y a trop de monde et trop d'embouteillages, ceux qui ont pris leur valise et qui tentent de sortir de Mina, mais avec le monde et les embouteillages n'arrivent pas à sortir de Mina, et ils avaient pourtant l'intention d'en sortir, le fait d'avoir pris ses valises et d'avoir commencé à vouloir partir, même si on est encore à Mina au moment du coucher du soleil, la grande majorité des savants considèrent que c'est quelqu'un qui était en situation de contrainte. Donc cet individu-là aussi a le droit et a la permission de quitter Mina au bout du deuxième jour. Il est également légiféré pour les pèlerins, avant de quitter la Mecque pour retourner chez eux, de faire un dernier tawaf, le tawaf al-wada', le tawaf d'adieu autour de la maison sacrée. Et nous rappelons ici, comme nous l'avons dit il y a 2 semaines, nous avons expliqué qu'il était recommandé, qu'il faisait partie de la sunna, de presser le pas pendant les 3 premiers tours du tawaf et de laisser découvrir son épaule droite pendant les 7 tours du tawaf. Mais cela est uniquement légiféré pour le tawaf de la Umrah ou le tawaf d'arrivée, le premier tawaf. Quant au grand tawaf, le tawaf al-ifada ou le tawaf d'adieu, on n'a ni à presser le pas pendant les 3 premiers tours, ni à laisser découvrir son épaule droite. Et également, certaines personnes pensent que la façon de s'habiller avec la cape qu'ils mettent, le drap qu'ils mettent autour du dos, c'est de tout le temps laisser découvrir l'épaule droite. Non, ceci est une sunna uniquement pendant le tawaf d'arrivée. Et avant le tawaf, et quand on a terminé le tawaf, même pendant ça et entre Safa et le Marwa, on n'a pas à découvrir l'épaule droite. Il est également recommandé aux pèlerins qui a pu se rendre dans la péninsule arabique, il lui est fortement recommandé de visiter la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et d'y prier autant qu'il peut. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière dans ma mosquée est mieux que 1000 autres prières dans n'importe quelle autre mosquée, sauf la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Il est également recommandé de visiter le cimetière Al-Baqir, le cimetière de Médine, mais d'y pratiquer les invocations habituelles qu'on pratique lorsqu'on rentre dans un cimetière, et de ne pas s'essuyer comme certains innovateurs le font, en pensant qu'ils vont avoir de la bénédiction en s'essuyant ou en prenant des pierres, en rentrant avec des pierres de ces cimetières, etc., ou en invoquant les morts. Ceci est associé à Allah, ceci est une idolâtrie. Il est également recommandé de visiter la mosquée de Quba et d'y prier au moins 2 unités de prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Quant à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il est recommandé à celui qui en a la capacité, celui qui en a le moyen, sans nuire à autrui, sans pousser les gens, de prier à l'endroit qui s'appelle le jardin du paradis, Ar-Rawda Sharifa, qui se trouve entre le mimbar et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est également recommandé de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant sa tombe. Et les gens de science nous expliquent que celui qui veut saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met face à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh » et certains savants rajoutent d'autres phrases qui sont dignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que dans ces phrases il n'y a pas de l'idolâtrie ni de l'association à Allah, on peut en rajouter. Et également, on salue les 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont enterré à ses côtés, Abu Bakr radiallahu an et Omar radiallahu an, en disant Assalamu alayka ya Abu Bakr et Assalamu alayka ya Omar. Et nous demandons à tous les pèlerins de cette année qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal lorsqu'ils se trouvent devant la Kaaba, qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal pour qu'Allah Azza wa Jal unifie notre communauté et qu'Allah Azza wa Jal nous fasse revenir au triomphe de notre communauté et à la puissance d'antan de notre communauté, et qu'il prie en particulier pour nos frères, les frères de notre communauté qui sont victimes d'injustices dans le monde entier, et en particulier en Palestine. Ayyuha al-ikhwa, afna adu'a'ina sanad'u ma'a imra'atin marida, tasaddaqat al-masjid, wa tatlubu al-du'a li nafsiha liyannaha marida, wa tatlubu al-du'a li zawjiha alladhi tuwfiya. Fansallahu tabaraka wa ta'ala an yarhama hadha al-rajul. Allahumma taghammadhu biwasi'a rahmatik. اللهم ثبته عند سؤال الملكين في قبره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اشف هذه المرأة، اللهم اشفها وعافيها، اللهم عجل بشفائها، اللهم ارفع عنها مرضها، وارفع عنها آلامها، وارفع عنها أوجاعها. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام، اللهم وفقهم لحج مبرور وسعي مشكور، واجعل ذنوبهم ذنوبا مغفورة. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا، واجعل ذنبهم ذنبا مغفورا، وأرجعهم من الحجاز من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم أرجعهم إلينا بحج مبرور، وأرجعهم إلينا بسعي مشكور، وأرجعهم إلينا بذنوب مغفورة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوب المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل تدميره في تدبيره، واجعل كيده في نحره، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Et dernière chose aussi, il y a notre machallah Nordine donc va nous quitter pendant 3 semaines, et donc il a déjà fait les invocations, donc c'est pour son pèlerinage, donc on ne va pas lui en refaire, mashallah, mais c'est tout cœur. Barakallahu fikoum.
Barakallahu fikoum. Ayyuha l'ikhwa, Inch'Allah, ça arrive à vous pour la durée de 3 jours, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, li hajj baytillah al-haram. Fa atlubu minkum, ayyuha l'ikhwa, jami'an, in ra'aytum minna tasarrufan, أو سمعتم منا قولا لا يليق لا بنا ولا بكم أن تستروا عيوبنا ليستر الله عيوبكم في الدنيا والآخرة. وإن رأيتم منا فضلا أو كلمة فيها خير فهذا ليس إلا من عند الله تبارك وتعالى. Frères, mes sœurs, bon, comme le frère Mustapha vient de le dire, je vais inshallah m'absenter pendant 3 semaines pour pratiquer le pèlerinage et je demande à chacun d'entre vous qui a vu de moi un acte qui est mauvais, blâmable, ou qui a entendu de moi une parole, ou que j'aurais pu faire quelque chose sans qu'il le sache qui est mauvais, je lui demande de me pardonner afin qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne à son tour toutes ses erreurs et tous ses péchés. Si vous avez vu de moi un bien, quel qu'il soit, cela ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Wa tabaraka wa ta'ala fa astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك